J'aimerais ouvrir quelques questionnements. Par rapport à notre conception de qu'est-ce que c'est la libération? Qu'est-ce que c'est la libération pour nous? De quoi ça a l'air dans nos vies? Et cette question, comme le Bouddha a abordé plusieurs reprises, elle est liée à l'origine, à la cause de la souffrance. Et on a beaucoup abordé cette question intérieure de la localisation de cette cause de la souffrance. Et j'aimerais inviter une ouverture par rapport à cette question. Dans le sens où on comprend de plus en plus avec la pratique que notre libération, notre bonheur, il est interdépendant du milieu où nous sommes. Il est interdépendant du bonheur des autres êtres, pas seulement des êtres humains. Et même ce qu'on conçoit en tant que nous, qu'est-ce qu'on est, on sait aujourd'hui que ce corps, c'est une communauté. Nous savons que nous avons un kilo de bactéries dans notre tripe. Ici, il y a un kilo de différents êtres, des millions d'êtres. On a des êtres sur notre peau, on a des êtres qu'on respire. Quand est-ce que l'air que je respire devient moi? Quand est-ce que la nourriture que je mange devient moi? À quel moment est-ce que c'est autre et moi? Donc là, cette séparation entre ce qu'on conçoit comme soi ici et l'extérieur, en fait, elle est une illusion. Elle est une grande illusion. On sait aussi avec la physique quantique et la conception du chaos, on parle du chaos au Nirvana, la conception du chaos, où un petit mouvement d'un insecte dans une partie du planète cause dans une autre partie du planète un cyclone. Comment on est tellement connecté de façon que nous n'arrivons pas même avec l'intellect à concevoir. Donc, dans quelle mesure la souffrance que je localise là n'est pas en grande partie causée ou originée par les souffrances dans cette planète, par les espèces d'êtres vivants qui disparaissent chaque minute à cause de l'intervention humaine. Disparition d'une espèce, c'est le dernier être, il décède. Il n'y a pas de continuation de cette espèce. Des rivières qui sèchent, des animaux qui n'ont plus à boire. Le Kilimandjaro, cette montagne en Afrique, au Kenya, qui a plus de glaciers, il n'y a plus de neige, il était blanc. Il est plus blanc. noir. De moins en moins d'eau, des cyclones de plus en plus fréquents. Par exemple, en Afrique, on avait un cyclone une fois chaque 20 ans. On en a eu deux dans un espace de 3 mois. Dévastateur. Donc, est-ce qu'on peut vraiment séparer? Est-ce qu'il y en a peut-être à l'origine de cette souffrance? Peut-être qu'il y a un questionnement. D'où est-ce que vient cette souffrance? Donc, ça amène à comment est-ce que nous, on contribue aussi à la fin de la souffrance. Si elle est tellement complexe et qui dépend aussi de ce qui se passe ailleurs, comment est-ce que nos actions dans ce monde, la façon dont on consomme, ce que nous achetons, comment on utilise nos ressources, de quelle façon ça fait partie de cette recherche de liberté, de cette recherche de libération par rapport à l'impact que ces actes, ces actions ont dans d'autres êtres, parfois qu'on ne connaît pas, qu'on ne va jamais voir dans notre vie, mais auxquels on est tellement lié par les habits qu'on porte, la nourriture qu'on mange, l'air qu'on respire. Donc, une invitation à cette exploration, comme le Bouddha le faisait, il invitait vraiment à explorer. Voilà, il n'y a pas de jugement, toujours vraiment dans l'accueil et de vraiment être ouvert à explorer, à questionner, à poser les bonnes questions. Et donc, on n'est pas seul peut-être dans cette contribution, on n'est pas seul aussi dans cet élan d'aller vers la libération. Et j'aimerais vous lire un petit texte d'une femme chanteuse mozambicaine qui habite au Brésil. Et j'aimerais le lire en deux langues. Parce que je trouve que dans ce monde, il y a des majorités, des minorités, des différences. Et j'étais inspirée à partager dans une langue qui est minorité dans le monde. Et après, je vais le lire en français aussi. Amor, transformação, esperança, de Paulo Freire. Sua obra me atravessou por diversos caminhos. Me ensinou que nesta vida nós não caminhamos sozinhos. É preciso ser amor para se encantar com as sutilezas de viver e deixar aflorar aquilo que nós queremos ser. Assim então as frestas para a mudança começam a aparecer e com fé que não costuma falhar, um mundo melhor nós veremos chegar. Um mundo melhor, nós. Amor, transformação, espoir. Son travail m'a traversé par différents chemins. M'a appris que dans cette vie, nous ne cheminons pas seuls. Il faut de l'amour pour se laisser envoûter par les subtilités de la vie et ainsi laisser émerger ce que l'on veut être. Alors, les fissures pour le changement commencent à apparaître. Et avec la foi, qui n'échouent généralement pas, nous verrons arriver un monde meilleur. Un monde meilleur. Nous. Et j'aime beaucoup comment ça termine, un monde meilleur, nous. Que nous, nous sommes ce monde. Donc nous ne cheminons pas seuls et Boaz et Sophie, ils nous parleront encore plus de cette dimension de communauté aussi. Et de soutien en communauté. Et je suis très inspirée dans ce cheminement vers la liberté par quelqu'un qui s'appelle Nelson Mandela. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Nelson Mandela, quand il marchait vers la porte de sortie après 27 ans d'emprisonnement, souvent en solitaire, il voyait la porte de sortie et disait, il s'est dit, je savais que quand je traverserais cette porte, si je ne laissais pas la colère derrière moi, je serai toujours en prison, même dehors. Je serai toujours en prison, même dehors. Et Nelson Mandela lui-même, il a cité une femme qui s'appelle Marianne Williamson, qui est une écrivaine américaine qui a écrit une dizaine de livres, qui préside aussi l'Alliance pour la paix, un réseau international pacifiste. Et j'aimerais lire cette citation que Nelson Mandela lui-même, il a lue pour clore cette partie. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, magnifique, talenteux et éveillé? Éveillé, c'est moi qui ai rajouté. En fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Et là, on va avoir un peu le mot Dieu que vous pouvez remplacer pour un autre mot si ça vous dérange. Tu es un enfant de Dieu. Te restreindre et voir et te voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Nous sommes nés pour briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas seulement chez certains d'entre nous, elle est en chacun de nous. Alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment, nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Alors que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres.
une partie du monde qu'on a laissé de côté en passant ces jours ensemble ici, c'est le monde de la famille, le monde des amis, le monde du travail, le monde des collègues, en tout cas physiquement. J'imagine qu'ils étaient quand même encore un peu présents dans la salle, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Si on en revient à notre histoire de l'évolution, on a évolué pour être ensemble. On a évolué pour mieux survivre ensemble. Et cette sphère, ces réseaux, ce filet social auquel on appartient, qu'il soit restreint, qu'il soit solide, qu'il soit étendu, qu'il soit peut-être souvent compliqué, ça je vous l'accorde. Il fait partie de la manière dont on arrive à s'ancrer, dont on arrive à se centrer, dont on arrive à mieux être en soi. Et c'est pour ça que peut-être on vient en retraite ensemble. Malgré le fait que certaines respirent lourdement, qu'il y en a qui ne portent pas de masque alors qu'on y voudrait, qu'on n'ouvre pas suffisamment les fenêtres. Enfin, il y a toutes sortes de choses à être dans un environnement social qui nous déplaît, c'est normal. Et en même temps, si on est là, c'est parce qu'on reçoit peut-être plus d'ancrage, de valeur, de soutien à être ensemble. Et donc, ce que je voudrais vous proposer comme réflexion, alors qu'on termine ce chapitre un peu plus solitaire à ce stade, c'est de remarquer par qui est-ce qu'on est entouré dans la vie quotidienne. Qui c'est qui nous entoure? Quelles sont les personnes qui du coup contribuent à notre qualité de présence, qui va influencer notre expérience? Ça c'est une autre variable, c'est tout l'aspect social qu'on n'a pas vraiment très peu abordé dans cette retraite. Ou au contraire, quelles sont les personnes qui sont autour de nous qui, en fait, nous rend la vie encore plus difficile par rapport à ce contact et cette intimité intérieure. Ça, pour moi, c'est vraiment une question essentielle par rapport à la manière dont on peut continuer à intégrer la pratique dans la vie quotidienne d'une manière durable et agréable et plaisante. Le Bouddha, d'ailleurs, Monica a cité le sutra hier, était une fois dans un village, il se baladait avec son intendant Ananda, et il remarquait qu'il y avait un moine qui était dans ses propres excréments. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et il a demandé au moine qui était environnant, parce qu'il était à peine conscient. Et les moines lui disent, mais ce moine, il est malade. Et le Bouddha, de son propre chef, il a levé les manches. Non, il n'a pas de manches. Donc il a enlevé la robe. Et avec Ananda, il lui a dit, viens, on va prendre ce moine, on va le laver, on va s'en occuper, on va prendre soin de lui. Et donc ils ont pris un certain temps pour nettoyer, pour le nettoyer, et puis ensuite pour le remettre dans son kuti, comme c'était le cas dans le temps. Et puis Ananda lui dit comme ça, mais en fait, Bouddha, les amis spirituels, c'est la moitié du chemin. Et il disait non. Ananda, non. Les amis spirituels, c'est la totalité du chemin. Bon, moi je pense que le Bouddha il a quand même un peu exagéré là, dans le sens où on n'a pas que les personnes autour de nous qui vont faire tout sur notre chemin. Mais il y a quand même pour moi un message essentiel qui est que quand on est, excusez-moi le langage, mais par rapport au sutra, c'est totalement adapté, quand on est dans la merde. Que ce soit, enfin, physiquement, c'est quand même assez rare de nos jours. C'est vrai qu'on a, heureusement, on a des systèmes de santé publique, enfin, on peut prévenir ça. Mais intérieurement, à combien de fois ça nous arrive dans la journée? Et je sais qu'il n'y a pas que moi qui suis dans la merde à plusieurs reprises dans la journée. Où je me sens peut-être désespéré, ou angoissé, ou exclu, ou fatigué, ou perdu. Et un des premiers soutiens, une des premières manières que de pouvoir s'aider, de pouvoir moins souffrir, cette liberté, cette libération auquel on aspire, c'est souvent de pouvoir appeler, faire appel à une personne, qu'on envoie un message, on parle à quelqu'un, on regarde quelqu'un autour de nous. On se sent peut-être plus rassuré dans l'instant. Donc les personnes qu'on a autour de nous sont des incarnations, des rappels potentiels de la pleine conscience, de la bienveillance, de la patience, de la compassion. Et donc en fait, quand on a des bons amis, jusqu'à un certain point, je ne dirais pas jusqu'à la totalité du chemin, quand même, le Bouddha, je trouve qu'il est un peu exagéré là, mais jusqu'à un certain point, ça devient notre pleine conscience, ça devient notre qualité de compassion qu'on... Les autres deviennent notre pleine conscience externe. Ils incarnent ce à quoi on a besoin pour pouvoir mieux être dans l'instant. Et ça, c'est le cas, bien sûr, quand on a beaucoup de difficultés dans la journée, qu'à travers la qualité de confiance et de bienveillance et le lien fort qu'on peut avoir avec les personnes autour de nous, on peut spontanément déjà se sentir plus conscient, plus incarné. Et puis, bien sûr, c'est le cas après au niveau de la pratique. D'incarner la pratique de manière régulière dans la vie quotidienne. Moi je sais que à 6h du mat, Monica elle se lève et commence la pratique, et puis bon, j'y vais. Mais c'est vrai que si elle n'avait pas cette régularité, si 6h30, c'est au moins quart, allez, bon, je peux peut-être, je sais pas. Donc d'avoir un soutien régulier, et on va en parler un peu plus tard de groupes ou des choses comme ça qu'on va continuer de proposer si vous le souhaitez. Ça c'est un socle qui aide beaucoup. On vous encourage vraiment de prendre une action pour pouvoir faire partie d'un cercle, pour pouvoir communiquer avec vos proches, vos amis, de manière à ouvrir la possibilité qu'ils puissent comprendre votre chemin, et puis que vous, après, de plus en plus, il y a une manière d'être moins seul, là. Parce que ça, c'est très très dur. Et c'est complètement en dehors des besoins qu'on a par rapport à la manière dont on a évolué. Donc, cette question des bons amis, question de l'amitié spirituelle, quelle place a-t-elle dans votre vie ?